Vous êtes sur RTL.
RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et si on commençait par parler vacances?
Ah, c'est une bonne idée.
Oui.
Elle démarre dans 3 semaines et on en aura bien besoin. Mm-hmm. Après cette année riche en émotions, crise sanitaire oblige, on va privilégier la France. Mais les professionnels du tourisme ont-ils profité du contexte post-Covid pour gonfler leurs prix? C'est ce qu'on va voir avec vous, Christophe Ponzio. Bonjour.
Bonjour.
D'abord, quelles sont les destinations qui arrivent en tête?
Alors, gros coup de cœur des Français pour la montagne et la campagne pour cet été. Farniente au son des grillons en Dordogne, dans le Cantal et dans le Lot, qui arrive pour la première fois dans le top 10 des réservations des gîtes de France. Et pour les destinations en altitude, carton plein pour les massifs de moyenne montagne, Auvergne, Jura et Vosges, même si les Alpes et les Pyrénées, désertées par les étrangers, sont aussi plébiscitées par les Français.
Alors, dites-nous tout, les prix ont-ils augmenté ?
Alors oui, gros coup de chaud sur les prix des locations de villas avec piscine pour bronzer les pieds dans l'eau en famille ou entre amis loin de la foule. La demande est très forte en Provence, dans le Luberon et sur la côte atlantique. Mais attention, cette flambée des prix pour les maisons avec piscine ne concerne que 10% des hébergements. Dans 60% des cas, vous payerez le même prix que l'an dernier, explique Solange Escure, la directrice générale des gîtes de France, au micro RTL d'Armel Lévy.
Le taux d'occupation sur la période du 4 juillet au 29 août varie entre 40 et 70% selon les semaines. Donc il serait dangereux d'augmenter ces prix, d'une part pour fidéliser la clientèle et d'autre part pour l'image de la marque.
Alors vous pouvez satisfaire notre curiosité, Christophe, quels sont les bons plans ?
Alors bon plan pour les vacances à l'hôtel avec des prix plus bas car les établissements sont beaucoup moins prisés que les autres années, notamment en Île-de-France. Bon plan aussi pour les locations entre particuliers. La clientèle étrangère va fondre au soleil cet été. Il faut donc séduire pour compenser ces pertes. Globalement, 30% des hébergements baisseront leurs prix en juillet et en août.
Merci pour toutes ces précisions, Christophe Ponzio.
Et dès la fin de votre journal, Jérôme, nous serons sur le GR20 en Corse. On va faire des découvertes absolument merveilleuses. On en vient à ce mandat de recherche pour tenter de retrouver une maman dans la région de Toulon.
Elle a abandonné son enfant de 5 ans dans une zone industrielle samedi dernier à La Valette du Var. Elle a expliqué son geste dans une lettre glissée dans son sac à dos, Hugo Hamelin.
Oui, c'est ça, le petit Aaron erre déjà depuis de longues minutes tout seul entre les bâtiments de cette zone industrielle quand il est repéré par des passants. Il porte sur lui un sac à dos dans lequel sa mère a mis quelques affaires et surtout ce courrier. Elle y explique qu'elle ne peut plus s'occuper de lui et l'abandonne donc ici à proximité du local d'SOS Médecins. Dans cette lettre, il y a aussi le numéro de téléphone du père qui habite à Paris. Contacté par la brigade des mineurs, ce dernier refuse de prendre en charge son fils parce qu'il a déjà trop d'enfants dont il doit s'occuper selon les enquêteurs. Aaron est donc placé dans un centre d'accueil. De sa situation, il ne dit pas grand-chose. Sa mère, une marginale, aurait déjà quitté la région. Elle est donc activement recherchée. Une procédure pour abandon de mineur a été ouverte par le parquet de Toulon.
Hugo Hamelin, la rupture est consommée entre les policiers et leur ministre Christophe Castaner qui continuera de recevoir les syndicats aujourd'hui. Les rencontres d'hier n'ont pas permis d'apaiser les tensions. Les forces de l'ordre lui reprochent ses mots lundi contre les dérives racistes dans la police. Image rarissime. On a vu dans plusieurs villes comme Bordeaux et Toulouse des agents jeter symboliquement à terre leurs menottes.
RTL, municipal 2020.
8h03, à bientôt 2 semaines du second tour. RTL fait escale aujourd'hui à Nantes.
Au cœur de la campagne, les thèmes de la sécurité et de l'environnement, mais aussi ce projet de la maire sortante qui divise la construction d'un nouveau CHU plus moderne et qui prévoit, pour donner davantage de place à l'ambulatoire, qui prévoit de supprimer près de 350 lits. Alors dans le contexte actuel où l'on a vu des hôpitaux saturés, certains ont du mal à comprendre la logique. Patrice Gabart.
Les travaux du futur CHU de Nantes, dont le permis de construire a été signé le 16 juillet dernier, doivent en principe démarrer à l'automne pour une mise en service en 2026. Un investissement colossal de près d'1 milliard d'euros, dont 225 millions à la charge de l'État, qui échappe encore à beaucoup de Nantais. Même à l'heure du déconfinement, Jacques s'interroge.
Il y a le coût pharaonique des travaux, des voies d'accès, etc. En même temps, on ne peut pas laisser la ville en l'état, ne toucher à rien. Il y a sans doute un besoin de préparer l'hôpital du futur.
Alors bien sûr, la sécurité reste une priorité, comme le soutien à l'économie sur fond de crise. Mais ce nouveau CHU continue d'être pointé du doigt. Un combat politique majeur majeur pour Laurence Garnier, candidate Les Républicains.
Aujourd'hui, ce projet de nouveau CHU est un projet absurde. Il prévoit la suppression de 350 lits. C'est la diminution de plus d'un quart des capacités d'hospitalisation pour l'hôpital public à Nantes. Il prévoit la suppression de 800 emplois et puis un hôpital sur une île avec un sous-sol pollué et inondable qui serait survolé en permanence par les avions. Je refuse que notre ville devienne la capitale des projets absurdes.
Pour la maire sortante socialiste Johanna Roland, arrivée en tête au premier tour et qui fait alliance avec Europe Écologie Les Verts, le CHU c'est au contraire un bien commun et une question de responsabilité.
Nantes peut demain être une des villes en France où il y aura un des plus gros investissements de l'État dans le service public de santé. Notre hôpital a besoin d'être modernisé. Notre hôpital a besoin de moyens nouveaux. Ensuite, est-ce qu'il faut revisiter le projet? Bien sûr qu'il faut le revisiter. Il y a et une question de nombre de lits et une question de valorisation des salaires. Abandonner un investissement majeur en matière de santé serait à mon sens une faute grave.
Indéniablement, le Covid-19 renforce le débat sur le transfert du CHU, mais de là à convaincre les indécis, rien n'est moins sûr.
Eh ben on verra ça le 28 juin pour le second tour. Reportage à Nantes de Patrice Gabart.
C'est l'autre conséquence dramatique de la crise du coronavirus. Le travail des enfants va repartir à la hausse et on en parle dans un instant. Restez avec
RTL
nous.
RTL Matin.
Souvenez-vous. Mon bleu blanc cœur.
RTL Matin.
8h06, la suite du journal de Jérôme Florin. C'est une alerte qu'on n'avait pas vu venir, celle de l'ONU, Jérôme.
L'Organisation des Nations Unies prévient ce matin qu'avec la crise sanitaire et économique, la pauvreté qui va gagner du terrain, des millions d'enfants à travers le monde pourraient se mettre à travailler, Sophie Orange.
40 à 60 millions d'enfants supplémentaires dans les usines, les petits ateliers, plus ou moins insalubres, les décharges pour faire du tri, selon la Banque mondiale. Du jamais vu depuis 20 ans, le travail des enfants avait même diminué. Sauf que la crise économique liée à cette pandémie fait craindre une hausse spectaculaire qui inquiète l'UNICEF. En temps de crise, le travail des enfants devient un mécanisme d'adaptation pour de nombreuses familles dans des pays en proie à la grande pauvreté. Les parents n'ont plus de ressources, tous les moyens sont bons pour survivre, ils n'ont plus le choix. Les services sociaux sont moins disponibles, les écoles ferment. Résultat, des dizaines de millions d'enfants risquent d'être poussés à nouveau vers le monde du travail. Ils vont s'ajouter aux 152 millions de mineurs déjà contraints de subir des horaires, des conditions de travail déplorables voire dangereuses. D'où ce cri d'alerte de l'Organisation internationale du travail. Il faut venir en aide à ces enfants et leurs familles.
Merci beaucoup Sophie Orange. Le retour à la maison enfin pour des milliers de Français ou résidents français qui étaient bloqués depuis la mi-mars en Tunisie. Le pays a entamé il y a quelques jours seulement son déconfinement et les opérations de rapatriement en ferry ont pu commencer. Le reportage sur place à Tunis de Mathias Reynal.
Sur le quai, Madame Adèle trépigne d'impatience.
Ben, je suis contente. Je suis vraiment pressée. J'ai laissé mes enfants et mes petits-enfants en France, voilà.
Elle s'est beaucoup inquiétée pour ses proches à cause de la crise sanitaire. Le retour est devenu pour elle une obsession. Elle suit le ferry à la trace grâce à une application sur son téléphone.
J'ai fait ça depuis hier, oui. Mais il est presque arrivé à Tunis.
Le bateau approche enfin. On emballe les derniers paquets. Les voitures se préparent à embarquer. Tout un symbole, les plaques minéralogiques temporaires sont dévissées.
Après 3 mois, il faut faire ces plaques. On va les donner au douane à l'intérieur pour qu'ils enlèvent la voiture du passeport.
Rachid, 55 ans, rentre chez lui à Nantes. Il n'y croit toujours pas.
Là, je ne suis pas encore soulagé. Du moment que je serai dans le bateau, là, je suis en France. J'ai mes enfants et ma femme qui sont là-bas. J'ai mon travail qui est là-bas, je suis artisan.
Bref, toute une vie qui doit reprendre son cours. Il est 14h, le ferry lève l'ancre direction Marseille. Il ne reviendra pas avant plusieurs semaines.
Mathias Reynal, les conséquences économiques de la crise du coronavirus, on l'apprend à l'instant, au Royaume-Uni, le produit intérieur brut s'effondre de plus de 20%, 20,4% en un mois, en avril. En France, c'est la moitié. Et voici la musique que nous n'entendrons pas ce soir dans le stade olympique de Rome pour le match Italie-Turquie. Ce devait être le lancement de l'Euro 2020 aujourd'hui. L'Euro dont vous entendez l'hymne et qui restera donc dans les cartons. Le coronavirus a eu raison de la compétition qui est donc reportée, vous le savez, à l'an prochain. En revanche, la Liga a repris hier soir en Espagne à huis clos. Betis-Séville contre Séville, victoire 2-0 pour Séville. Les championnats ont aussi repris en Allemagne, au Portugal. La France, elle, regarde toujours passer les balles. Et puis c'est un événement pour tous les amateurs de jeux vidéo. Je suis sûr que vous en êtes. Yves, Sony a dévoilé le design futuriste de sa toute dernière console, la PS5. PS5, toute blanche et sans lecteur de disque, sortie prévue en fin d'année.
Vous savez, moi j'en suis resté à Nintendogs, à chaque fois on prend pour un vieux stock, mais c'est pas grave. Le chiffre du jour ?
160 000 euros, c'est ce qu'a perçu indûment un habitant de Ris-Orangis qui n'avait pas déclaré le décès de sa mère en 1995. Il touchait tous les mois sa pension de retraite en se servant sur son compte. C'est la banque qui a réagi en trouvant étrange de ne plus voir cette dame censée être âgée de 104 ans. L'homme a alors fait un faux certificat de décès, trop grossier pour être honnête. Il vient d'être condamné à rembourser une partie de la somme. Si tout le monde faisait pareil, on creuserait encore plus le déficit, lui a lancé la procureure.
Et ben voilà, c'était le journal de Jérôme Florin.
RTL Matin, Yves Calvi.
Comme chaque matin après notre journal de 8 heures, nos journalistes en région partagent avec vous les bons plans et les choses à voir autour de chez eux. On quitte le continent ce matin. Bonjour Étienne Baudu.
Bonjour Yves, bonjour à toutes et à tous.
Direction avec vous la Corse, ses sommets, son fameux sentier de grande randonnée, le fameux GR20, réputé comme l'un des plus difficiles, mais aussi l'un des plus beaux. La houle des confinements est absolument assurée. Étienne, c'est un sentier qui nécessite quand même de bonnes jambes et du souffle.
Oui, il faut avoir une bonne condition physique pour le faire, mais attention à rien d'insurmontable, même si on a pour habitude de dire que le GR20 est au randonneur ce que le Mont Blanc est à l'alpiniste, c'est-à-dire le must, la randonnée à réaliser absolument. Alors, 170 km de Calenzana au nord à Conca au sud, des noms qui sentent bon le maquis, oui. En 16 étapes. Et pour vous donner un avant-goût, je vous propose d'aller à la rencontre de Louis-Marc Chagnard. Il est le président du comité Corse de la Fédération de Grande Randonnée. Il connaît par cœur ce GR, il y était encore la semaine dernière. Et pour lui, la magie reste intacte avec une partie nord très minérale.
Toute la partie nord, c'est des rochers, des dalles, des parois verticales. Et puis le sentier comporte parfois des passages où il faut lever le pied plus haut que le genou. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de végétation. Avec des couleurs, des gris, du noir, de... Ah, moi je trouve c'est splendide. Au mois d'octobre, j'étais au Népal. Les paysages que j'avais à 5000 mètres, je les ai ici à 2500 mètres.
Et puis vous pouvez gravir sans difficulté le plus haut sommet de Corse, le Monte Cinto, qui culmine à 2700 mètres d'altitude. C'est une variante du GR20, mais de là-haut, vous avez une vue qui, par beau temps, embrasse toute l'île de beauté. C'est absolument sublime. Alors ensuite, plus au sud, on change complètement de paysage finalement. C'est la diversité corse, un paysage plus doux et plus verdoyant.
Le sentier traverse des forêts, notamment des forêts de pins Larichio, qui sont très 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 hauts. On s'en servait autrefois pour faire des mâts de bateaux, et des forêts de hêtres aussi. Et ensuite, on arrive sur le plateau du Cochionne. Le relief est beaucoup plus doux, il y a des petits cours d'eau. C'est très agréable, c'est rien à voir avec le nord qui était très minéral.
Et alors, arrivé là, Étienne, vous nous proposez une petite halte justement sur ce plateau pour reprendre des forces.
Oui, dans une bergerie que Jean-Louis Léandry a aménagée pour accueillir et réconforter le randonneur. Perdu là-haut dans sa montagne, nous l'avons joint sur son téléphone satellite et il arrive quand même à nous mettre l'eau à la bouche.
Voilà, alors, c'est-à-dire on a les produits de la ferme. Moi, je suis éleveur porcin. Donc, on fait saucisson, copain, jambon, lonzo. Et comme on ne fait pas de figatelli, nous, on fait du pâté de campagne avec les abats du porc. Alors, le fromage, c'est un berger qui est à côté de chez nous qui nous le fournit. Lorsqu'on a du brooch chou frais, on mélange un peu la confiture de clémentine avec le brooch et c'est excellent.
Oui, ça c'est, je vous confirme, c'est excellent.
Ah, le bon monsieur Léon, voilà, il faut... oui.
Voilà, mais bon, bah, il faut quand même repartir et on termine donc le GR20 en beauté, au pied des aiguilles de Bavela qui se dressent orange et ocre dans le ciel bleu azur, c'est absolument magnifique. Et rien qu'un lever de soleil sur ces aiguilles vaut spécialement le détour et tous les efforts qu'on a produits pour y arriver.
Bah, en tout cas, j'ai bien compris que c'était beaucoup, beaucoup plus agréable que d'aller au Népal. La Corse, grâce au bon conseil d'Étienne Baudu, on a passé un excellent...